C'est un fleuron industriel français, un marché qui se porte très bien. Il a rapporté 9 milliards d'euros en 2018, 30% de plus qu'en 2017. Le rapport annuel du gouvernement sur le sujet salue les excellents résultats de nos exportations. Ce marché, ce sont les armes. Et au-delà du questionnement légitime sur le pays des droits de l'homme qui s'enrichit en vendant des missiles et des chars, se pose la question de la transparence. Car il est très compliqué de savoir précisément sur quels critères la France autorise ou non ses exportations d'armes. La France vend des armes à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite fait la guerre au Yémen. De nombreuses voix s'élèvent pour y dénoncer des crimes de guerre. Toute la question est donc celle de l'équilibre à trouver entre le secret défense, qui est important pour la sécurité des soldats et pour des raisons géostratégiques, et la transparence indispensable en démocratie. Vous nous écrivez comme d'habitude, chers auditeurs, sur l'application France Inter, par courriel à la page du débat de midi sur franceinter.fr ou encore sur Twitter, hashtag le débat de midi. Faut-il plus de transparence sur les ventes d'armes françaises? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Avec trois invités en direct, deux sont ici avec moi en studio et un en duplex de Lyon. Le général Jean-Paul Paloméros, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Ancien pilote de chasse, vous avez été chef d'état-major de l'armée de l'air entre 2009 et 2012, avant de rejoindre le commandement interallié de l'OTAN. Vous étiez également conseiller militaire d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, je crois.
J'étais au sein de l'équipe défense d'Emmanuel Macron jusqu'à son élection. Je n'ai plus de fonction.
Et vous êtes aujourd'hui à la retraite. Est-ce que votre parole est libre à ce titre ?
Oui. Je dirais qu'elle l'a toujours été. J'oppose un peu l'idée de devoir de réserve au devoir de responsabilité. Un responsable, quand il a eu l'honneur d'occuper des fonctions comme celles que j'ai occupées, il a une vraie responsabilité vis-à-vis des hommes, des femmes qu'il a commandées, vis-à-vis de son métier, mais il doit aussi faire la lumière sur tout ce qu'il sait et apporter au débat public.
Et vous l'avez toujours aujourd'hui, donc, ce droit de responsabilité.
Oui, je le sens.
Tony Fortin est en duplex depuis nos studios à Lyon. Bonjour à vous.
Bonjour.
Chargé d'études à l'Observatoire des armements, vous faites partie des 19 organisations qui ont publié hier une lettre ouverte aux parlementaires sur le Yémen et sur les ventes d'armes françaises aux côtés, par exemple, de Médecins du Monde, d'Amnesty International ou d'Oxfam France. On va y revenir, bien sûr, en détail, à cette lettre ouverte. Ma troisième invitée est journaliste, lauréate du prix Albert Londres. Bonjour Anne Poiret.
Bonjour.
Bienvenue, auteur d'un documentaire qui sera rediffusé sur LCP la semaine prochaine, Mon pays vend des armes, et d'un livre qui porte le même titre aux éditions des Arènes, Mon pays vend des armes. Il est important ce premier mot, Anne Poiret, c'est mon pays, on est en démocratie, je devrais être informée des conditions dans lesquelles nous vendons des missiles et des chars.
Oui, j'ai l'impression que on devrait, de la même façon qu'on a quand même une idée où sont les grandes industries françaises, où sont voilà ce qui fait notre richesse commune, où sont-elles? Et j'avais effectivement, je suis partie de cette idée que en fait je ne savais rien, que le alors évidemment il y a des chercheurs, il y a des gens qui s'occupent de ces questions qui le savent, et là beaucoup de choses sont d'ailleurs accessibles dans les régions, les gens savent où sont les usines. Hein. Donc là, voilà, l'idée c'était de le film et le livre. Je pars comme ça un petit peu de façon naïve, quoi. Je me mets au niveau d'un citoyen qui s'interroge et qui va à la rencontre de ces gens qui produisent nos armes, qui les fabriquent et qui les vendent.
Tony Fortin, observateur de l'armement, vous êtes d'accord avec cette idée qu'on ne sait rien sur le sujet, que le grand public ne sait rien ?
Oui, on peut dire qu'il y a deux niveaux d'information. Il y a un niveau d'information, on a beaucoup de données sur les ventes d'armes sur Internet quand on cherche bien. Hein, donc qui sont destinés aux industriels, parfois à certains politiques de haut rang. Donc ces données existent en fait et parfois elles circulent librement. Par exemple, les contrats avec l'Arabie Saoudite, vous avez un site dédié du ministère de la Défense, voilà, qui présente les contrats. Mais par contre, dès que ces contrats sont en débat public, on sent bien que ça pose problème. Ça veut dire que l'État refuse d'officialiser ses ventes d'armes, refuse de partager l'information avec les citoyens. Et c'est pour ça que normalement il édite un rapport annuel sur les ventes d'armes destiné a priori aux parlementaires mais aussi aux citoyens, et ce rapport est totalement incomplet, il ne comprend que des montants financiers et ne permet pas aux parlementaires ni aux citoyens de savoir exactement ce que la France livre, contrairement à d'autres pays européens.
Je donne la parole au général, Jean-Paul Palomeros. Il est incomplet ce rapport sur les exportations d'armes françaises?
Il comprend quand même beaucoup d'éléments. Moi, je pense que si on se compare à d'autres pays qui donnent peut-être l'impression d'être beaucoup plus transparents, je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas. Si vous voulez, il y a plusieurs manières de présenter les choses. Quel est le problème finalement? On pourrait remonter, c'est un problème stratégique d'abord. On vend pas des armes par plaisir. On désarme parce que ça garantit notre souveraineté, parce qu'on a besoin de cet export, parce qu'on est une puissance moyenne avec des responsabilités mondiales. Et on ne vend pas des armes à n'importe qui. Alors après, effectivement, la question c'est dans quel degré de détail faut-il entrer pour ne pas mettre en péril nos relations avec les pays auxquels on vend des armes, parce qu'il y a des clauses effectivement confidentielles et secrètes. Notre interlocuteur vient de dire quand même que beaucoup d'informations circulent. Donc ceux qui veulent savoir savent. Je crois qu'on peut partir de ce principe-là. Ensuite, la vraie question, c'est effectivement quels sont les termes des partenariats stratégiques qui permettent de s'assurer que les pays auxquels on vend ces armes appliquent les mêmes règles que nous sur les règles de limitation de la violence dans les conflits, les droits de l'homme. Ça, je pense que c'est la question fondamentale. Ça peut évoluer au fil du temps, d'ailleurs.
Jusqu'où faut-il pousser la transparence? Donc, on se pose la question et on entre dans le vif du sujet dans un instant. Le débat de midi, c'est une équipe en or. Caroline Pomès et Camille Kaufmann ont préparé cette émission, réalisée par Lola Costantini. Anne-Laure Cochet, Elisabeth Collet sont à la technique. Et c'est Jean-Baptiste Audibert qui choisit la musique. Il est midi 13.
I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then the walk where I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town. With all my favorite colors, yes sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors.
C'était les Black Pumas sur France Inter, Colors. Question autour des ventes d'armes françaises à l'étranger aujourd'hui dans le débat de midi.
Alors Nexter est ici, ils font l'ensemble de la munition, depuis la douille et la charge explosive. Logiquement, je suis pas sûr qu'on ait le droit de filmer, mais enfin bon, on va passer en vitesse. Là, c'est la partie mécanique, là c'est leur base logistique. Et puis après, vous voyez, on voit rien du tout parce qu'on est dans les bois. Et l'activité pyrotechnique, elle est au milieu des bois. Donc là, on est sur le site missilier MBDA. Voilà, là, c'est l'entrée. Pour se faire repérer, parce que sinon, on va se faire... fabrique toutes les gammes de missiles. Donc nous, on dit, on entend partout, c'est la crise de l'industrie. Globalement, ici, l'industrie va pas si mal. Bon, déjà, l'industrie militaire, elle est en croissance, évidemment.
Pourquoi évidemment ?
Là, évidemment, avec tous les conflits, toute la sécurité du monde, c'est pas un marché en décroissance.
Vous avez une opinion sur le sujet ?
Sur le sujet des ventes d'armes par rapport à des pays qui seraient loin d'être des démocraties ? Bon, c'est un sujet sur lequel je ne vais pas être trop bavard.
Extrait de votre documentaire Anne Poiret, Mon pays vend des armes, à voir la semaine prochaine sur LCP. Le monsieur qu'on vient d'entendre, c'est le maire de la chapelle Saint-Ursin, près de Bourges. Il faut sans doute commencer par là, quand on parle armement. C'est un très gros marché, un secteur important pour la vitalité économique du pays.
Oui, les chiffres que donne le ministère des Armées tournent. Alors, ça augmente chaque année. Moi, j'ai pas pu vérifier s'ils étaient corrects, mais ils seraient de 200 000 personnes. Récemment, la ministre a ajouté 400 000 emplois indirects, 13% des emplois industriels.
Donc, des communes entières qui dépendent de la fabrication d'armes.
Voilà. Celle-là, c'est très particulier parce qu'en effet, c'est une toute petite commune. Et ils ont deux sites, enfin, un vraiment et l'autre qui est voisin, mais qui emploie aussi du monde, où des retraités s'installent. Donc c'est évidemment une commune qui est très très particulière.
Je voudrais préciser que nous avons invité les industriels à participer à ce débat, les vendeurs d'armes. Donc on a proposé à Dassault, MBDA et Nexter de s'exprimer autour de cette table. Tous ont refusé. Est-ce que ça vous étonne, Anne
Poiret ? Non, ça ne m'étonne pas, mais on ne dit pas vendeurs d'armes. Hein. Vous savez, on dit industriel de l'armement, industriel de la défense, ou alors membre de la BITD, la base industrielle de technologie de défense. Voilà, on ne dit pas vendeurs d'armes, ils n'aiment pas du tout ça.
Leur argument, en tout cas, c'est de dire que les industriels ne participent pas à ce débat parce que c'est à l'armée française de le faire.
Alors, en fait, ils disent, ils n'ont absolument pas tort, en fait, en France, il est interdit de vendre des armes. C'est-à-dire que vous devez avoir une autorisation de l'État pour exporter de l'armement. Là où ils sont un petit peu de mauvaise foi, c'est qu'ils sont obligés de la demander. S'ils ne veulent pas cette autorisation, s'ils ne veulent pas de licence, s'ils ne veulent absolument pas vendre des armes à l'Arabie Saoudite, ils ne sont pas obligés de l'obtenir et de la demander. Donc, c'est un petit peu. Mais de fait, il faut qu'ils aient cette autorisation. Avant, il fallait même 3 autorisations pour avoir une licence au moment de la commande et au moment de la livraison. Maintenant, il n'y a plus besoin de cette licence à ce moment-là. Voilà. Et là, c'est une commission. Alors, pour faire un peu de pédagogie, c'est une commission interministérielle. Ça s'appelle la commission interministérielle pour l'exportation de matériel de l'étude de l'exportation de matériel de guerre. Ce sont des gens qui représentent 3 ministères, notamment le ministère des Armées, des Affaires étrangères et des Finances, et qui statuent sur le fait que la France peut ou pas vendre des armes.
Donc quand un industriel demande à vendre telle arme à tel pays, c'est la France qui va décider si oui ou non. On connaît les taux de refus, d'acceptation.
Alors on connaît, hein, il me semble que c'est mais il n'y a pas de justification de pourquoi. Mmh. Ça fait partie de ce que les parlementaires demandent, hein, d'avoir plus de précision de pourquoi. Et si vous voulez, surtout le problème, c'est que ces réunions la plupart, quand on vend quelque chose des boulons liés à une arme à la Suède, par exemple, ça va pas poser de problème, ça va pas s'arrêter. En revanche, si c'est pour un certain type de matériel à l'Arabie Saoudite, par exemple, on peut imaginer qu'en ce moment, ça va venir dans cette réunion mensuelle où ils vont en discuter physiquement. Ils vont se réunir avec des gens des services, un observateur de l'Élysée, tout ça sous la houlette du Premier ministre. Le problème, c'est que ces discussions-là sont confidentielles défense. Donc, par nature, on ne peut pas savoir comment ils font leurs décisions.
Alors, je me tourne vers le général Jean-Paul Paloméros. À quoi ça sert, le confidentiel défense, pour le dire simplement ?
C'est d'abord pour assurer la sécurité des hommes et des femmes que nous engageons sur le terrain.
Dans ce cadre-là.
Les discussions pour savoir si on autorise ou non un industriel.
Vous me demandez à quoi sert le confidentiel défense, je vous réponds.
Bien sûr.
C'est ça, c'est... On va pas mettre sur la place publique nos secrets qui seraient utilisés par nos adversaires potentiels. Maintenant, dans ce cadre présent, il s'agit vraiment de relations d'État à État. Il s'agit de relations de confiance entre États. Et il est clair qu'il y a des clauses qui sont définies par ces États vis-à-vis des contrats d'armement. Et qu'il faut les respecter, ces clauses. Sinon, il n'y a plus d'accord entre États, et par définition, ce sont aussi, par ailleurs, des marchés qui se ferment. Alors, quand on vend de l'armement à un pays, Moi, je pense que la philosophie qui prévaut dans notre pays depuis bien des années, c'est quand même que c'est l'intérêt national qui est en jeu. Et quand je parle de l'intérêt national, c'est pas uniquement la balance commerciale, même si l'exportation d'armement y contribue et ça fait pas de mal, par parenthèse. Mais c'est surtout la vision que se donne la France dans le monde. Or, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est agité, qui est dangereux. On peut le regretter, je le regrette. Mais c'est ainsi. Et on doit tenir notre place, c'est ce que souhaitent les présidents successifs, et la puissance militaire en fait partie, et le fait qu'on puisse vendre des armes à des pays avec lesquels nous avons des relations stratégiques fait partie de cette équation. Si c'était pas nous, ça serait quelqu'un d'autre, et dans des conditions qui seraient sans doute moins transparentes et moins claires vis-à-vis du respect des armements. Et nous respectons tous les traités qui traitent la matière, ça... On peut le garantir à très peu de choses près. Il y a une question qui peut se poser, c'est vraiment le contrôle ex post de savoir s'il n'y a pas des contraventions, s'il n'y a pas des contournements de ces lois. Ça, c'est un vrai sujet, me semble-t-il, du réexport, par exemple, ou des biais. Là, je pense que la transparence est absolument indispensable, la lutte contre la corruption. Il y a des choix à faire aussi à des moments. Vous avez aujourd'hui en Centrafrique, il y a un embargo sur les armes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit aider le gouvernement centrafricain à rétablir l'ordre sur son territoire, ce qui, pour la paix de son propre pays, ou est-ce qu'on tient la position en disant on a un embargo en Centrafrique, on vend pas d'armes. Vous voyez, ces questions-là sont quand même pas non plus simplistes. Il faut pas les résumer en on vend des armes, on vend pas des armes. Un jour, les pays
dites,
sont...
Ce que vous dites, c'est que ça ne souffrirait pas un référendum pour chaque décision de vente d'armes, Jean-Paul Paloméros.
Je veux dire, ça serait un petit peu compliqué quand même, parce que d'un côté, tout le monde dirait qu'il faut pas vendre des armes. De l'autre côté, notre pays ne pourrait plus tenir sa place sur la scène internationale. Donc, il faut savoir ce qu'on veut.
Tony Fortin, de l'Observatoire des armements. L'argument qu'on vient d'entendre, il revient assez fréquemment, celui de dire, si c'est pas nous, c'est les autres. Si la France ne vend pas des armes à l'étranger, d'autres pays le feront. Est-ce que ça justifie le confidentiel défense qui entoure l'autorisation ou non donnée aux industriels de vendre à l'étranger?
Tout d'abord, je suis d'accord sur l'idée que si on vend des armes, c'est pas pour des raisons économiques, c'est pour des raisons géostratégiques. Il faut savoir que la vente d'armes,
ça fait beaucoup d'argent quand même.
L'Arabie Saoudite, c'est simplement 0,04% du total des exportations françaises. C'est-à-dire 0,4%, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire que c'est totalement infime, en fait, par rapport à l'économie globale du pays. Non, si on vend des armes, c'est parce que, bon, il faut évidemment équiper les forces françaises et que le marché national est trop étroit et du coup, il faut y exporter pour alimenter les chaînes de production. Mais c'est aussi parce qu'on souhaite en fait entretenir un certain nombre de relations avec des régimes. C'est aussi parce qu'on mène nous-mêmes une politique d'influence à l'étranger. Et c'est bien pour ça que ce débat-là autour de notre politique d'influence et qui se produit à travers les transferts d'armement, qui sont un des vecteurs de cette politique, ce débat-là, il doit se produire au moment où les contrats sont négociés au Parlement. Par exemple, aujourd'hui, on retrouve de l'armement, dans des Français au niveau des casernes ou de lieux possédés par le général Haftar en Libye. Hein. On sait que c'est du matériel qui a été livré effectivement à la Libye en contradiction avec les règles internationales, puisqu'il y a un embargo sur la Libye, et cet embargo comporte des exceptions, hein, parce qu'on peut aider d'une certaine façon les forces gouvernementales, mais en fait la France se retrouve à travers ses livraisons d'armes en violation avec cet embargo là. Et pourtant, quelques années avant, on a travaillé avec une députée, Danielle Auroi, sur la Libye, on a bien vu qu'il y avait des autorisations politiques d'exportation accordées par le gouvernement vers la Libye qui pouvaient poser problème, et on n'avait pas les détails dans le rapport au Parlement.
Il faut préciser quand même, Tony Fortin, que la ministre des Armées, Florence Parly, a répondu hier que ces armes, donc ces missiles qui appartenaient à la France mais qui étaient fabriqués par les Américains, n'avaient pas été vendus aux troupes rebelles libyennes. C'est la réponse officielle.
Oui, mais là encore, les parlementaires n'ont aucun moyen de le vérifier.
De vérifier.
En fait, ben oui, il faut le rôle des parlementaires, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Mais comment vous pouvez effectivement réaliser ce contrôle si vous n'avez pas accès effectivement aux données sur les contrats d'armement? Et dans le cas présent, c'est-à-dire en 2015, cette députée écologiste Danielle Auroi avait envoyé un courrier à Jean-Yves Le Drian pour lui demander quel était le matériel concerné par ce type de transfert. Et Jean-Yves Le Drian avait répondu en opposant le secret défense. Et c'est la même chose de la réunion en commission de la défense qui s'est tenue hier avec l'audition de Florence Parly. Les députés ont réagi dans la presse, enfin les députés d'opposition, en disant que cette réunion n'avait rien fait avancer, qu'ils avaient obtenu aucune information et que le débat avait été verrouillé. Dans ce cadre-là, on voit bien qu'il s'agit de mettre en place de façon institutionnelle les moyens pour les députés en fait d'obtenir des informations sur ces contrats d'armement au moment où ils sont négociés pour éviter justement que ces armes alimentent des conflits. Et 9 ONG, dont l'Observatoire des armements, demandent l'établissement d'une commission parlementaire permanente qui serait chargée effectivement d'examiner ces contrats au moment où ils sont négociés.
Et autorisé.
Et autorisé, et évidemment, de façon à éviter la livraison d'armes pour alimenter les conflits. Et cette commission-là, ce contrôle parlementaire, il existe dans d'autres pays de l'Union européenne. C'est pas une incongruité. Et la France est en retard de plusieurs années. En Allemagne, les députés sont informés sous 2 semaines des licences qui sont accordées par le gouvernement. Au Royaume-Uni, vous avez cette commission parlementaire qui existe, qui peut mener des enquêtes sur les ventes d'armes réalisées par le gouvernement britannique, qui rédige un contre-rapport, qui, par un échange de lettres avec le gouvernement, a accès à des données classées secret défense, qui auditionne aussi régulièrement les ONG. Donc, on voit bien qu'il y a une prise en charge dans d'autres pays par les députés eux-mêmes de cette question-là. Et il faut quand même aussi reconnaître que, d'une part, le gouvernement aujourd'hui en France est à la fois en charge de la promotion des ventes d'armes et de leur contrôle. Il y a une schizophrénie, il n'a aucune envie d'avancer parce qu'il souhaite conserver ses marges de manœuvre en termes de politique étrangère, mais que de l'autre côté, les parlementaires ont l'habitude de laisser ce sujet à l'exécutif et passent souvent d'un sujet à l'autre. Généralement, quand il y a effectivement de graves choses qui se produisent et ne prennent pas en charge quotidiennement cette question-là.
Anne Poiret, c'est ce qu'on retrouve aussi dans votre livre « À mon pays vend des armes », cette impression que les députés ont un peu lâcher l'affaire, ils ont pris acte que c'était l'exécutif qui prenait les décisions
en
la matière.
Oui, ça a un petit peu changé cette année. On a eu l'impression qu'il y a eu des débats qui étaient un petit peu plus serrés. Il y a eu la ministre, dans des auditions, pas celle d'hier, mais au mois de mai, c'est un petit peu plus fait secouer, notamment parce qu'il y avait des gens de la Commission des Affaires étrangères qui étaient là.
La prise de conscience est récente.
Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé cette année avec l'affaire Khashoggi, vous savez, le meurtre du journaliste
saoudien.
Et puis, les révélations du site Disclose, de cette note DRM sur la présence d'armement français au Yémen, dans le conflit au Yémen, le passage du navire où il y a eu une mobilisation tout à fait inédite d'ONG, des dockers, pour essayer d'avoir. Mais j'aurais juste revenir sur ce qui a été dit un petit peu précédemment, parce que vous disiez, général, qu'on peut avoir des éléments, qu'on peut avoir des informations. C'est malheureusement pas le cas, en fait. Quand on essaye
d'être
précis...
Ceux qui veulent savoir savent.
Non, quand on veut être précis, quand on veut savoir ce qu'il y avait dans ce bateau, par exemple, pour l'Arabie Saoudite, on ne peut pas savoir.
Alors, vous parlez de ce cargo qui devait aller au Havre chercher des armes.
Ils ont été obligés de
dire... Et qui a renoncé.
Ils ont été obligés de la ministre a fini acculée par dire oui, ce sont des armes à destination de l'Arabie Saoudite, mais on n'a jamais pu savoir ce qu'il y avait exactement dedans. Et quand vous dites, par ailleurs, que on respecte les traités, la France respecte les traités. En fait, il y a quand même des questions qui se posent sur des. Alors le problème, c'est les détails. Il ne s'agit pas d'arrêter de vendre des armes. C'est parce que c'est plus d'avoir des détails pour savoir si ce qui est vendu à l'Arabie Saoudite ne contrevient à aucun. On ne contrevient à aucun moment au traité pour le commerce des armes ou
donc
à
un traité qui a été signé en 2014. Il faut peut-être préciser le contenu de ce traité. Il s'agit de dire si des civils peuvent être touchés par les armes, il ne faut pas vendre.
Voilà,
l'idée, c'est que on ne doit pas transférer d'armement, et ça reprend les éléments à peu près de la position commune européenne qui date de 2008. On ne peut pas transférer d'armement à des pays qui pourraient les utiliser pour commettre des crimes de guerre ou qui pourraient retourner ces armes contre les civils. Voilà. Et donc quand on a comme principaux clients en termes de livraison, notamment, hein, c'est les derniers chiffres du rapport au Parlement, l'Arabie Saoudite et derrière l'Égypte, qui sont l'Arabie Saoudite qui est engagée dans cette guerre au Yémen, où les grandes ONG internationales, l'ONU, dénoncent des crimes de guerre depuis le début, depuis 2015. L'Égypte, qui est par toutes les ONG accusée de violer les droits humains contre notamment toutes formes d'opposition. Il y a les questions qui se posent, enfin. Et on ne peut pas avoir de réponse précise. Donc c'est un peu vite de dire la France respecte les traités. La France a une procédure, hein, ça c'est sûr. La France ne fait pas n'importe quoi, on l'imagine bien. Mais le problème, c'est que c'est quand même vraiment difficile d'avoir des réponses précises.
Général Jean-Paul Palomeros, comment vérifier effectivement que le traité sur le commerce des armes que la France a ratifié est bien appliqué? Comment vérifier que nous ne piétinons pas nos engagements internationaux? Comment être sûr que les armes françaises ne tuent pas des civils au Yémen?
Ça, écoutez, j'ai été engagé sur de trop nombreuses têtes d'opérations pour ne pas vous dire aujourd'hui qu'on peut être sûr à 100% qu'on ne tuera pas des civils. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'on fait le maximum pour éviter de le faire.
On doit vous croire sans parole.
La France, mais...
Attendez, la France, bien sûr, votre question portait sur la France. Ce qu'on doit faire, à mon avis, et ce qu'on essaye de faire, c'est d'accompagner l'export d'armement par un export de savoir-faire. Parce que je pense que dans l'art de la guerre moderne, si vous m'excusez cette expression, cette idée de limiter l'emploi de la violence au strict minimum qui est nécessaire pour atteindre l'objectif politique et militaire, il est ancré chez nous, et je peux vous dire que quand j'ai commandé l'armée de l'air, et en particulier quand on est allé faire les opérations en Libye, c'était une préoccupation permanente, pourtant dans des conditions extrêmement difficiles. Et je crois qu'il y a, chez certains pays, chez lesquels on vend des armes, un manque de culture par rapport à cette pratique, qui pourrait, à mon avis, éviter des dommages, ce qu'on appelle les dommages collatéraux, mais en fait c'est des morts, hein, c'est des morts civiles, des morts. Trop de morts, toujours trop de morts. Je pense que ça, c'est un axe extrêmement important, parce que les systèmes d'armes que nous vendons, je pense au Rafale, par exemple, avec ses armements, ce sont des systèmes d'armes extrêmement précis. Si on sait s'en servir, si on a derrière toute une doctrine pour cibler les objectifs que l'on cherche, bien faire la part des choses.
Vous parlez d'accompagnement, de formation, de service après-vente, en quelque sorte.
C'est plus que du service après-vente.
En quoi ça empêcherait la transparence?
C'est apprendre à des pays qui n'ont pas cette culture à faire la guerre, parce que la guerre, elle est là et on ne va pas l'empêcher. Pourquoi la guerre? On ne va pas revenir sur la situation au Yémen. Elle est inextricable. Il y a quand même un pays dont on ne parle pas et qui est censé être sous embargo, l'Iran, pour ne pas le citer. Qui est au cœur de tout ce débat. Donc, ne rejetons pas non plus facilement la balle dans un camp.
Est-ce que ça justifierait de violer le TCA, le traité sur le commerce des armes?
Pas de violer, au contraire. Il faut le mettre en application, mais il faut le mettre en application dans son esprit et dans sa lettre. C'est-à-dire...
Excusez-moi, mais l'Arabie Saoudite, elle n'est pas accusée de dommages collatéraux, elle est accusée de crimes de guerre. Ce que l'armée française, on imagine bien, ne fait pas. C'est-à-dire de viser des sites civils. C'est pas... Ils ont visé, ils n'ont pas fait exprès. C'est quelque chose qui, depuis 2015, et se répète encore et encore. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'un dommage collatéral.
Ça c'est un débat qui doit avoir lieu dans les instances idoines. Hein. Moi, je suis incapable de le trancher parce que je ne suis pas sur le terrain. Je peux vous parler de la Bosnie, je peux vous parler des théâtres que j'ai connus.
Vous êtes un général à la retraite aujourd'hui, on l'a dit. Pensez-vous qu'il existe ce débat en interne, au sein des états-majors, au sein des ministères? Est-ce que des voix s'élèvent contre le commerce d'armes françaises, notamment vers l'Arabie Saoudite?
Non, je pense pas que des voix s'élèvent parce que ces décisions-là, elles sont prises, comme je le disais tout à l'heure, avec une vision stratégique. Que des réflexions soient menées sur l'emploi des armements, c'est bien légitime. Savoir comment on peut mieux aider ces pays, les encadrer et les aider. Après, que le débat démocratique mette sur la table des sujets compliqué, c'est nécessaire.
Avec moi, les si informations
pour, avec vous aujourd'hui, c'est pour en parler, parce que on est dans une démocratie, et une démocratie qui a besoin, à mon sens, de rénover l'approche des questions de défense. Je le crois profondément. L'esprit de défense...
La grande muette doit se mettre
non,
à parler.
Non, c'est pas la grande
peu.
Muette, c'est l'esprit de défense de nos citoyens, et Dieu sait s'ils sont intéressés par les débats de défense. Alimentons-le, ces débats.
Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que moi, j'ai rencontré des gens qui me parlent la plupart off, hein, dans l'appareil d'État, où il y a, me semble-t-il, un débat très fort. En SIEM, il y a des débats très forts.
Ah oui, alors, on ne peut pas.
La SIEM, c'est la commission interministérielle.
C'est fait pour ça.
Voilà, c'est fait pour ça. Le ministre des Affaires étrangères sortant, de ancien Premier ministre de François Hollande, Monsieur Ayrault, Jean-Marc Ayrault, a témoigné dans le livre. Il a expliqué qu'il avait essayé de s'opposer à des ventes, à des transferts d'armes, à des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, faisant état du fait que ça ne respectait pas, selon lui, les termes du traité pour le commerce des armes qu'il avait contribué.
Il s'est opposé à Jean-Yves Le Drian.
Il s'est opposé à Le Drian. Il semble-t-il que ça a été tranché à l'Élysée et que on a accordé cette licence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parmi ces armes pour lesquelles on a donné des licences, il y a des missiles que visiblement, des munitions qu'on ne retrouve plus visiblement aujourd'hui dans la note de la DRM. Ah. Voilà, tout à l'heure pour dire qu'il y a quand même un débat. Donc il n'y a pas un consensus absolu, il y a un débat, et c'est quand même regrettable qu'on ne puisse pas, que ce soit tellement difficile de que ces termes deviennent publics et qu'on donne cette impression que tout va bien, enfin que tout est très simple.
Allez, on poursuit ces échanges dans un instant, c'est l'heure de la musique sur France Inter.
Bien sûr.
Et l'harmonica est toujours un bon indice. Voici Bob Dylan. Il est 12h37. Vous continuez à nous écrire sur l'application France Inter et à la page du débat de midi, franceinter.fr.
There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Tower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl.
Prix Nobel de littérature en 2016, Bob Dylan sur France Inter. Question aujourd'hui autour des ventes d'armes françaises à l'étranger. Faut-il plus de transparence? Avec trois invités, la journaliste Anne Poiret, auteur du livre Mon pays vend des armes, Tony Fortin de l'Observatoire des armements à Lyon et le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air.
Le débat du midi, Dorothée Barba sur France Inter.
Nous recevons pas mal de réactions d'auditrices et d'auditeurs. Christiane écrit 400 000 emplois, combien de morts? 400 000 emplois, c'est évidemment le chiffre évoqué tout à l'heure, hein, les emplois indirects générés par l'industrie de l'armement en France. Réaction de Didier, il est dommage et même grave que l'État français, depuis des dizaines d'années, ait choisi comme vitrine technologique le nucléaire et les armes, alors que nous avions une vraie expertise et compétence dans le domaine du transport, par exemple. Beaucoup de questions autour de l'hypocrisie qui consiste à présenter comme relevant du secret défense, nous écrit Jacques, ce qui n'est en réalité pas autre chose que du sordide secret commercial. Et là, je donne la parole à Tony Fortin de l'Observatoire de l'armement. Vous disiez, vous, au contraire, que l'argument économique n'est pas le premier pour justifier le secret. Pardon.
Non, c'est un argument stratégique qui s'oppose. Se pose la question en fait de l'attitude générale par rapport aux crises que l'on voit dans le monde. Alors, on voit par rapport à la Libye où effectivement la France accompagne un chef de guerre pour pousser ses propres intérêts. Mais il faut savoir aussi que la France a préparé avec des contrats ad hoc la guerre au Yémen, des contrats qui ont été préparés en 2011, qui ont amené à des livraisons en 2011, 2014, 2015, 2016. On livrait entre 400 et 500 millions d'euros à l'Arabie Saoudite traditionnellement, et on est passé à 900 millions en 2015, 1 milliard en 2016, plus d'un milliard en 2017 et 2018. Donc, on a participé à équiper effectivement les forces saoudiennes et émiraties pour leur permettre de faire la guerre. Et d'autre part, se pose aujourd'hui la question, on a eu un récent voyage d'Emmanuel Macron au Kenya, qui aboutit à des contrats notamment liés en matière de technologie militaire marine avec Airbus. On a une formation aussi qui est prévue dans le cadre d'une coopération militaire de la marine kenyane. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la région? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un conflit extrêmement grave de frontières entre le Kenya et la Somalie, sous fond d'enjeux pétroliers dans lesquels est impliquée notamment l'entreprise Total. Donc, quel est le jeu de la France dans cette région-là? Ça, il faudrait le poser au Parlement. Et au moment où ces contrats sont négociés, ils sont tout juste signés, l'armement n'est pas livré. Aujourd'hui, on devrait s'interroger sur ce qui se passe en Somalie, au Kenya, et plus globalement sur la stratégie française sur la Corne de l'Afrique, dont on a beaucoup de raisons de penser qu'elle est liée effectivement aussi à ce qui se passe au Yémen.
Oui, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui beaucoup. On parle beaucoup du Yémen aujourd'hui, Tony Fortin, mais il faudrait parler de ces contrats au moment où ils sont négociés et autorisés par le gouvernement.
Tout à fait. Il faudrait interroger de façon plus large nos partenariats stratégiques avec un certain nombre de régimes. Il faudrait que ce soit dans un débat public qui soit quotidien, notamment au Parlement. Et c'est pour ça qu'on demande précisément la création d'une commission parlementaire permanente qui pourrait réaliser au quotidien ce travail. Mais il faut que ce débat ait lieu quand les contrats d'armement sont négociés, que les parlementaires soient dans la boucle et puissent délivrer un avis au gouvernement, voire même, effectivement, être impliqués dans l'octroi des licences d'exportation d'armes. Parce que sinon, on se réveillera à chaque fois qu'il y a des massacres qui sont commis au Yémen, alors que la France, dans beaucoup de situations telles que je l'ai expliqué, à la fois le Yémen, la Somalie, Kenya, est impliquée dans le processus, en fait, de guerre, de construction des conflits.
Général Jean-Paul Paloméros, une commission d'enquête, qu'en pensez-vous?
Le Parlement a tout pouvoir et tout le droit de lancer une commission d'enquête. Moi, je m'inscris un peu en faux quand même. Dire qu'aujourd'hui, la politique de la France est de pratiquement ce que vous avez dit, de susciter des conflits, non, je crois pas. Que la France tienne son rôle, elle est membre du Conseil de sécurité.
Des Nations Unies.
Qu'elle tienne son rôle dans le monde, c'est la moindre des choses. Qu'elle essaye d'aider des pays qui sont défaillants. Que serait le Mali aujourd'hui si nous n'y étions pas allés? Que serait le Sahel si nous n'étions pas dans la lutte contre le terrorisme? Donc, je pense qu'il faut pas non plus tout mélanger. Il y a effectivement des enjeux stratégiques qui sont pas toujours si évidents que ça à comprendre, parce qu'il y a l'impact des autres grandes puissances dont on ne parle pas aujourd'hui. On se focalise, c'est bien normal, sur notre pays, mais regardons un peu ce qui se passe dans le monde. Enfin, ce monde s'est réarmé à une vitesse phénoménale. C'est le grand phénomène du XXIe siècle. On peut le regretter. Je le regrette comme chef militaire. Un militaire, c'est avant tout un soldat de la paix. C'est regrettable. Je ne le comprends pas, d'ailleurs, ce phénomène, fondamentalement. Et pourtant, c'est le cas. Donc, il y a des positions à prendre, il y a des pays à aider, il y a effectivement des choix. La politique, c'est une affaire de choix, et c'est pas facile à assumer, parce que évidemment le monde bascule, il y a des grandes influences, il y a des jeux d'influence. On peut pas parler de l'Arabie Saoudite, je l'ai dit tout à l'heure, sans parler quand même de l'Iran. Parlons aussi des choses qui fâchent. On peut pas parler de ce qui se passe en Somalie sans parler de la déstabilisation de tout un sous-continent. Donc je crois qu'il faut quand même relativiser un peu. On n'est pas dans la manipulation, si vous voulez, géostratégique. On est un pays, et le débat démocratique doit porter là-dessus, bien sûr. Les dirigeants politiques doivent être interrogés sur leur vision du monde, sur leur stratégie et sur les raisons qui les poussent à nouer des partenariats stratégiques. On noue un partenariat stratégique avec l'Inde, moi je crois que c'est une bonne chose. Eh bien, il faut effectivement l'assumer.
Une question d'un auditeur pour vous, Général Paloméros. Renan nous écrit ceci. Si on ne les vend pas, d'autres le feront. C'est l'argument que vous avez employé tout à l'heure. Donc l'État devrait vendre du cannabis et de la cocaïne.
Non, c'est... je comprends tout à fait la réaction. Je me suis sans doute pas très bien exprimé, parce que si on...
L'entend beaucoup, cet argument.
Oui, mais il n'est pas suffisant en soi. C'est-à-dire, de toute façon, ces pays-là vont s'armer. Ça n'excuse pas des écarts, et ça n'excuserait pas le fait qu'on aille vendre à des pays qui ne sont pas dans la ligne de ce qu'on pense être le bien, c'est-à-dire de porter à la fois des valeurs, de porter et de contribuer quelque part à la stabilisation. Maintenant, il y a des points de conflit et de confrontation dans ce monde qui sont horriblement compliqués. Je vous ai dit, j'ai vécu les Balkans, et malheureusement, ces points de conflit se multiplient. Il faut prendre parti. Et à un moment donné, on ne peut pas rester les bras ballants en disant bon, qu'on les laisse se débrouiller. Nos intérêts sont en jeu, nos intérêts vitaux sont en jeu dans le Golfe. On a de nombreux ressortissants d'ailleurs dans cette région du monde. Qu'est-ce qu'on fait? On les retire? On admet une baisse d'influence de la France? Et puis on s'enlève les mains? Non, je ne pense pas que c'est la bonne attitude.
Ce que vous dites, c'est que la vente d'armes n'est qu'un aspect des relations géostratégiques de la France avec ses partenaires et ses ennemis.
Alors il y a quand même une exception, c'est l'Égypte, parce qu'on peut en parler. L'Égypte est passée sous François Hollande du 23e à premier client en termes de livraison. Moi, à ma connaissance, c'est pas pour des raisons. Alors effectivement, c'est souvent la lutte antiterroriste qui est avancée, mais il n'y a pas les sources qui m'ont parlé m'expliquent qu'il n'y a pas d'armes françaises qui sont utilisées pour combattre le terrorisme en Égypte. Ils affrontent Daesh, ils ont des difficultés épouvantables dans le Sinaï, mais c'est pas avec des armes françaises, c'est pas avec des PPC, c'est pas avec les corps. Enfin voilà, c'est ce qu'on leur a vendu n'est pas engagé dans la lutte antiterroriste. Et par ailleurs,
donc ce qu'on leur a vendu est utilisé contre la population.
Est utilisé. Non, je dis pas ça, mais ce qu'on leur a vendu essentiellement le Rafale, hein, parce qu'il fallait vendre le Rafale et qu'on a trouvé chez Sissi un acheteur et qu'on s'est engouffré là-dedans sans vision à long terme. Et moi, je ne fais que vous redire ce que les gens en interne de l'appareil d'État m'ont expliqué, notamment à quelqu'un que j'ai parlé, qui est encore très récemment au Quai d'Orsay, qui nous dit l'Égypte, c'est pas compliqué. Ils ont sauvé l'armée française de la banqueroute en achetant le Rafale. Donc, sur les droits de l'homme, on nous dit de la fermer. C'est compliqué de d'arriver à cet argument-là. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? Comment ça se fait?
Jean-Paul Paloméros.
Oui, alors, des avions de combat, c'est un domaine que je connais bien.
Ancien pilote de chasse, hein, je le rappelle.
Oui, ça fait longtemps que je connais bien l'armée de l'air égyptienne, qui est une armée valeureuse. Ça fait longtemps les Égyptiens ont volé sur Mirage. Et ils volent maintenant sur Rafale. L'Égypte est un grand pays de cette région. Donc, elle compte sur l'échiquier international. Ça sera une des plaques tournantes, vraisemblablement, de cette région dans l'avenir.
Mais c'est là-dessus que s'engage. C'est mon interprétation. Ces contrats de vente ne servent pas à lutter contre le terrorisme.
Non, mais ils positionnent l'Égypte dans un échiquier géostratégique. Et nos dirigeants politiques ont choisi de faire ce pari que l'Égypte constituera une plaque tournante dans cette région et qu'il faut l'aider à protéger nos intérêts communs dans cette région. C'est ça l'enjeu. J'espère bien et je le souhaite que l'Égypte ne retournera pas ses rafales contre son peuple, contrairement à ce qu'a fait Kadhafi à son époque.
Tony Fortin.
Dans le cas de l'Égypte, effectivement, on a fait un rapport avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme qui montrait clairement que, en fait, on a équipé le maréchal Al-Sissi, général Al-Sissi, quand il est arrivé au pouvoir. Il y avait une coopération américaine qui était en cours avec une livraison massive d'armement, mais il y a eu des critiques d'Obama qui ont poussé effectivement Al-Sissi à vouloir diversifier ses soutiens extérieurs et la France, c'était sous le mandat de François Hollande, a saisi cette fenêtre d'opportunité. Et la problématique effectivement d'Al-Sissi, c'est pas le terrorisme notamment dans le Sinaï. La problématique, c'est suite au printemps arabe en Égypte, le contrôle de sa propre population. Et c'est là où la France a un savoir-faire entre guillemets, en la matière. Il faut savoir qu'il y a une petite brochure qui est intitulée « Gestion démocratique des foules », hein, entre guillemets, et qui regroupe énormément de technologies de surveillance qui sont offertes par les industriels de l'armement. Et c'est à ce moment-là où, effectivement, la France a fourni ces outils de surveillance et de contrôle de la population à l'Égypte, et qui dessinent toute une architecture. Alors, ça peut être, effectivement, des technologies qui permettent de détecter des comportements suspects avant même que les gens passent à l'acte. C'est quasiment un film de science-fiction de type Minority Report. Ouais. On pense par exemple aux technologies Amesis, mais aussi Morpho, hein, édité par Safran, qui effectivement établissent le fichage biométrique des Égyptiens. Et à chaque fois, ce logiciel est guidé par des scénarios qui effectivement sont programmés par les développeurs pour détecter un certain nombre de comportement. Mais on a vendu aussi un satellite. Un satellite permet effectivement d'observer les mouvements de foule, notamment au Caire, hein, pas simplement une application strictement militaire. On a vendu des drones, hein, également, qui permettent de surveiller les mouvements en milieu urbain, etc. Donc, on a toute une architecture qui a été dessinée, qui a été signée.
Une expertise française en matière de surveillance.
Ah, exactement, en matière de surveillance, qui sert, de contrôle des foules,
qui sert à stabiliser quand même un pays qui mérite d'être stabilisé. Enfin, on veut que... Moi, je ne prends pas parti sur le débat interne égyptien, mais ce pays est important. C'est un pays important contre dans la lutte contre le terrorisme et pour l'avenir.
Même Emmanuel Macron, depuis 2013. Dans son discours au mois de janvier, ça a d'ailleurs posé beaucoup de problèmes en interne derrière dans les contrats, qu'il y avait un problème avec la façon dont les droits de l'homme étaient respectés en
Égypte. Alors, le sujet du jour étant la transparence, et parce que le temps file, je voudrais aussi qu'on parle des journalistes qui ont été entendus, Anne Poiré, par les services de renseignement français, notamment Benoît Colombat de la cellule d'investigation de Radio France. Il a été convoqué. Chez Disclose aussi, deux journalistes qui avaient rendu publique une note de la direction du renseignement militaire. Est-ce que vous y voyez une forme d'intimidation de la presse ?
Oui, très clairement. Il y a une. En fait, ce qui est vraiment complètement navrant, c'est qu'il y a effectivement, c'est extrêmement difficile, comme on l'a expliqué tout au long de l'émission, d'avoir des informations. Oui. Énormément de documents, toutes les décisions, les débats pour les ventes d'armes sont couvertes par le confidentiel défense. Ce document-là lui-même était couvert comme ça, et qu'à partir du moment où on apporte des preuves, en fait, où on apporte des documents, puisque souvent, effectivement, toute la clé est là, et bien la réaction est immédiate, c'est-à-dire qu'il y a des convocations avec à la clé d'éventuelles poursuites. Alors pour l'instant, ils n'ont pas de nouvelles. Donc pour l'instant, on ne sait pas. A priori, on a l'impression que
C'était un
simple rendez-vous courtois. Mais c'est vrai que c'est complètement navrant, parce que ça donne un signal épouvantable.
Alors le document en question était classé confidentiel défense. Est-ce que ça vous choque aussi, Général Paloméros, que ces journalistes l'aient rendu public et soient convoqués à ce titre par la DGSI ?
Est-ce qu'on est au cœur d'une démocratie ? Il y a des antagonismes. La liberté de la presse, elle est sacrée, bien sûr. Et d'un autre côté, le confidentiel défense s'applique. Donc, souvenons-nous des affaires Snowden. Hein, je veux dire, en plus, on est dans un monde où l'information se diffuse à la vitesse de la lumière. Donc, il y a quand même des attitudes aussi à changer. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que il faut être extrêmement vigilant sur, et là aussi je parle très librement, sur la manière dont on classifie les informations. Une tendance naturelle est parfois de trop ou de surclassifier. Je ne dis pas que c'est le cas en la matière, mais c'est une réflexion que j'ai eue souvent.
Vous l'avez fait savoir ?
Comment ?
Vous l'avez fait savoir en haut lieu, qu'on avait tendance à trop classifier ?
Non, mais la surclassification ne garantit pas la confidentialité, c'est ça le problème. Donc il faut effectivement en permanence se poser la question de savoir où se situe le niveau de classification pour mieux la faire respecter.
Si j'imagine que là-dessus, Tony Fortin, vous serez d'accord avec le général Jean-Paul Paloméros, on classifie trop confidentiel défense ?
Non, mais qui a du secret défense dans le cadre d'un État, ok. Le problème, c'est quand il est utilisé pour empêcher tout le débat public, pour dire il ne doit pas y avoir de contrôle par les députés des contrats d'armement. Là, ça pose un problème, parce que ce secret défense, il existe au Royaume-Uni sans que ça empêche un travail régulier des parlementaires sur la question. Donc en France, on mélange un peu tout, hein, voilà, et on utilise un certain nombre d'arguments fallacieux pour bloquer le débat en fait, et faire en sorte que l'exécutif conserve la mainmise sur ces dossiers. Mmh. Et c'est là où les journalistes, les citoyens, ont leur rôle à jouer en traitant de façon peut-être beaucoup plus régulière de ces questions internationales, de ces questions de défense, interroger peut-être un peu plus souvent de façon critique la politique étrangère de notre pays. On condamne un petit peu les États-Unis, mais on oublie effectivement de s'interroger sur le rôle de notre propre pays. Et ça, c'est vraiment un exercice qu'il va falloir qu'on fasse un peu plus souvent si on veut éviter que d'autres Yémen se répètent.
Et on l'a fait, là, pendant une heure. L'émission touche à sa fin. J'ai une dernière question à poser à mes trois invités.
Le débat de midi sur France Inter.
Question traditionnelle dans le débat de midi. Sur quel sujet avez-vous changé d'avis ? Tony Fortin, on commence avec vous. Ça peut concerner tout autre chose que l'armement, je le précise.
C'est un peu ça que j'ai démarré mes travaux un petit peu sur l'armement, la géopolitique. Je me suis dit, bon, c'est les Américains, les fauteurs de troupes dans le monde. Et petit à petit, en bossant depuis 10-12 ans sur ces jeux, je me suis aperçu que la France se situait très souvent dans... pas toujours le très bon rôle dans les crises actuelles.
Avec on est pire que les Américains, donc.
Non, mais en tout cas, chaque État est impliqué souvent de façon... Il y a des questions qui se posent au niveau national, qui sont dans le débat public, mais les questions internationales sont rarement vues de façon critique. Mmh. On a un État qui est vu comme protecteur au niveau national et on oublie de s'interroger sur le versant international. Et bien souvent, c'est un versant beaucoup moins reluisant et un peu plus prédateur.
Même question pour vous, Jean-Paul Palomero. Avez-vous changé d'avis? Et si oui, sur quel sujet?
Oh, j'ai changé d'avis sur l'appréciation dans mon commandement, sur l'appréciation que je pouvais avoir sur des hommes et des femmes, mais ça, c'est pas...
Ça restera confidentiel, s'il
ça
vous plaît.
Ça restera confidentiel, non, mais plutôt dans le sens de se dire qu'on apprend beaucoup au contact des hommes et des femmes et qu'il faut éviter les préjugés. Mmh. Mais là où j'ai vraiment changé d'avis, et ça rejoint un petit peu le débat d'aujourd'hui, c'est que je pensais, il y a 30 ans, vous voyez, on était en 1989, je pensais vraiment que le monde était en train de changer.
Et qu'on allait vers la
pour
paix.
Le bien. Oui, le mur de Berlin s'effondrait, nouvelles technologies comme Internet étaient en train de donner de l'information à l'ensemble du monde en temps réel. Et 5 ans plus tard, je l'ai déjà dit, je me retrouvais au cœur du conflit bosniaque et puis les crises se sont enchaînées. Et aujourd'hui, j'ai totalement changé cette d'avis. Le monde est dangereux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que la France continue à se défendre. Et il faut qu'elle fasse selon les normes, qu'elle respecte évidemment ses engagements, et qu'elle le fasse avec l'Europe. Et ça, c'est vraiment une conviction profonde. C'est que nos libertés et la paix ne se défendront pas toutes seules. Il faut des hommes et des femmes pour le faire. Il faut avoir la volonté de le faire. C'est pas un héritage qui est garanti ad vitam aeternam.
Et je vous pose la même question, Anne Poiret.
Eh bien, moi, c'est au sujet des militaires. J'ai changé d'avis.
C'est une obsession.
Parce que dans cette enquête, qui est quand même une enquête que j'ai commencée il y a plus de 2 ans, je pensais que mon principal problème, ce serait l'armée. Alors, ça a été le cas pour le ministère des armées, mais mes principales sources ont été les militaires.
Pas si muet que ça, donc.
Qui sont tenus à beaucoup plus que les autres, mais qui ont des choses absolument passionnantes à dire et qu'on n'écoute pas assez. On a vu cet hiver un colonel qui s'est exprimé et qui s'est fait tomber dessus immédiatement. Et c'est très dommage, parce que souvent, ce sont des hommes et des femmes qui sont au contact de ces crises et qui ont un avis passionnant, et c'est dommage qu'on ne les entende pas plus.
Un grand merci à vous trois. Mon pays vend des armes, votre livre est disponible aux éditions Les Arènes, Anne Poiret. Le documentaire lui sera rediffusé jeudi prochain, le 18 juillet sur LCP à 20h30. Merci à Chantal Nouvello qui était à la technique à Lyon pour assurer le duplex avec Tony Fortin, et très bonne journée à tous les trois.